France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, du lundi au vendredi jusqu'à 11h. Et ce matin, dans le cadre de la journée spéciale BD sur France Inter, on se demande comment la bande dessinée contribue à l'apprentissage et surtout au goût de la lecture. Apprendre à lire et développer son goût pour les livres grâce à Mortel Adèle, à One Piece, au Schtroumpf, à Tintin, à Léonard ou Boule et Bill, c'est possible et nous verrons pourquoi, car la lecture d'une BD est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît et demande un certain nombre de compétences cognitives. La bande dessinée, un noblard et une lecture aussi estimable qu'un roman. Nos invités recommanderont à vos enfants quelques BD qui pourraient leur plaire. Et vous, quel rôle a joué la BD dans votre goût pour la lecture? Quels sont les héros de bande dessinée qui vous ont accompagné dans votre jeunesse? Vos enfants ou petits-enfants ont-ils développé une appétence pour les livres grâce à Anatole Latuile ou Astérix? Au contraire, vous inquiétez-vous qu'ils ne lisent que des BD ou des mangas? Le standard et WhatsApp vous sont ouverts au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter fête, la BD. Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Marine Schmoll.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, autrice et formatrice petite enfance et vous publiez un guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants. C'est publié chez Duno. Bonjour Jérôme Blanchard.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de J'aime lire et je bouquine. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef des magazines Pomme d'Api et Poppy. Vous publiez aux éditions Bayard et France Inter Ma vie de parent, le recueil de vos hilarantes chroniques ici dans Grand Bien vous fasse. Bonjour Didier Pazamonique.
Bonjour Ali.
Président d'ActuaBD, le site de référence sur la bande dessinée. Vous êtes le commissaire de l'exposition Manga, tout un art, actuellement au musée Guimet à Paris jusqu'au 9 mars prochain. On reviendra sur le manga qui a longtemps eu la réputation de lobotomiser le cerveau des enfants et des ados. J'exagère à peine en disant cela.
Alors, je me sens sous pression là.
Marine Schmoll, on va parler de l'apprentissage de la lecture ce matin, mais j'aimerais qu'on commence avec la question du plaisir. Plaisir de la lecture partagée, qui commence avec les tout-petits qui ne savent pas encore lire. Les jeunes enfants semblent prendre un plaisir fou à ce qu'on leur lise des histoires. Et d'ailleurs, dans un rapport ministériel de 2019, la psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos affirmait, je la cite, que le livre lu apporte au bébé un plaisir mental, émotionnel et sensoriel qui, comme le bon lait, le nourrit et l'apaise.
Tout à fait. Bah, Sophie Marinopoulos, elle parle de nourriture culturelle, de santé culturelle. Et voilà, elle dit que comme on met plein de choses dans l'assiette de l'enfant, on peut mettre tout à fait beaucoup de livres dans son assiette.
Dans la diversité.
Dans la diversité. Et que ce soit des albums jeunesse ou des BD de plus en plus tôt maintenant. Il n'y a qu'à regarder les jeunes enfants. Moi, je travaille en crèche notamment. Donc, on peut les regarder des heures et des heures. On voit que n'importe quel enfant en dessous de 6 ans, va vers les livres tant qu'il y en a dans la pièce. C'est absolument c'est la première chose qu'on voit et c'est le premier argument que j'ai mis dans mon livre. Il y a du plaisir.
Et ce plaisir de la lecture partagée totale, plaisir de l'objet livre, plaisir des pages tournées, plaisir à être ensemble avec son parent, sa nounou ou l'assistante maternelle qui vous lit des histoires.
Tout à fait. Il y a un vrai plaisir relationnel, c'est de cette nourriture dont parle aussi Sophie Marinopoulos. Et voilà, c'est un vrai facteur aussi de lien aux autres, d'empathie, de lien à soi et au monde en fait.
Pourquoi il est essentiel de développer ce plaisir de la lecture dès le plus jeune âge?
Alors, déjà pour la question du plaisir, hein, je reviens là-dessus, et aussi parce qu'on sait que quand même, il y a une question d'égalité à l'accès au langage. C'est vraiment un des facteurs principaux d'accès au langage.
Et puis c'est le meilleur moyen, cette lecture partagée, ce plaisir de la lecture partagée, d'ancrer des habitudes de lecture, quand ils auront l'âge d'aller à l'école primaire et bien plus tard.
Tout à fait. Et ça, on sait que c'est le facteur principal entre les enfants qui ont eu accès à la lecture partagée et les enfants qui vont apprendre à lire après. C'est un facteur motivationnel, en fait. C'est le plaisir à lire. Plus on a été habitué à lire, plus on a été dans un bain de lecture, y compris de BD, on y reviendra, plus on va avoir envie d'apprendre à lire.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, moi je m'occupe aussi de magazines pour tout petits, Poppy et même des magazines comme Baby dès les premiers mois de la vie. Et c'est vrai que quand on va en crèche, c'est extraordinaire de voir, en fait l'idée c'est de ce lien affectif, c'est-à-dire comment on va dès le plus jeune âge, vraiment tout bébé. Nous, on peut travailler avec des enfants de 3 mois, 4 mois avec ce projet, justement, Babille. C'est l'idée vraiment de relier les mots, les sons à l'affectif, quoi. Mmh. Et que si tout petit, on arrive par exemple avec des jeux de coucou caché, on propose beaucoup, nous, des, comme ça, de pouvoir jouer avec la surprise, etc. On voit des enfants de 3 mois, 4 mois. Mmh. Comme ça, émerveillés, réagir à ce qu'on peut leur proposer. Et donc, si dès tout petit, on arrive à relier comme ça le mot, le son, au plaisir, à l'affect, alors là, on a mis en place quelque chose qui est quand même très fort pour la suite. Et quelque part, l'apprentissage, le décodage de la lecture, sur lequel on est tous très, très accros au moment du CP, finalement, quelles que soient les compétences de l'enfant, qui vont s'avérer très différentes selon les autres, elle va trouver sa place sur un terreau qui est avant tout l'affect.
Jérôme Blanchard.
Oui, tout à fait. Alors moi, je m'occupe plutôt de magazines à partir du CP, et c'est là que se pose la question de la lecture qui prend deux identités. Il y a le plaisir d'un côté et l'apprentissage. Et en fait, un des dangers qui guette les enfants qui n'ont pas été initiés déjà à ce plaisir, c'est de voir la lecture uniquement comme une galère de l'école, quoi. Et donc, c'est vrai que la question du plaisir, l'accompagner dès la petite enfance et après au CP, CE1, etc., c'est pas pour rien que nos magazines s'appellent « J'aime lire », quoi. C'est que cette notion de plaisir va les aider en fait à voir la lecture comme deux choses différentes qui vont se compléter l'une l'autre quoi.
Didier Pazamonique.
Moi, je vous écoute et tout de suite, je pense à mes neveux qui sont à Fustignac, pas très loin de Toulouse. Et la première librairie, plutôt le premier marchand de journaux est à 7 km et la première librairie à 60 km. On n'est pas tous égaux devant la lecture.
Mais sauf qu'on peut s'abonner. Enfin, le principe des abonnements, justement, c'est qu'ils arrivent dans votre boîte aux lettres au fin fond de la campagne.
Bien joué.
Alors, dès leur plus jeune âge, les enfants sont familiarisés au rapport entre le texte et les images. Et Marine Schmoll, quand on observe des jeunes enfants s'intéresser aux livres, ils regardent de près les images et parfois ils semblent littéralement les dévorer.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'au départ, les enfants sont des lecteurs d'images.
Ah oui, ce sont des lecteurs d'images. C'est pour ça que la BD a un rôle fondamental aussi, on y reviendra. Et y compris pour le passage du moment où on ne sait pas lire et au moment où on sait bien lire, en fait, à l'affluence de la lecture. C'est très important de garder encore beaucoup d'images. Il y a des enfants qui y sont accrochés très longtemps, ils ont été biberonnés à ça. Et donc oui, ce sont des lecteurs d'images principalement, mais ils font le lien avec le récit qu'on leur raconte pendant des années avec une voix d'adulte.
Et ce qui est très rigolo quand on travaille avec des tout-petits, c'est quand on dit qu'ils sont lecteurs d'images, en fait, vous allez voir que lire avec un tout-petit, c'est regarder un tout-petit faire des allers-retours entre l'image qu'on lui montre et la personne qui le lit. C'est pour ça que de mettre un enfant, un petit, devant des images animées, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le petit va faire des allers-retours entre ce qu'on lui dit et est-ce que la personne qui lit, lui, par exemple, elle est étonnée, elle fronce les sourcils. Et donc, il va commencer à poser des codes par rapport à l'intention aussi de la personne qui lit. Et c'est là où c'est très drôle, et on le verra après avec la bande dessinée, il y a des parents qui sont plus ou moins à l'aise avec la lecture de bande dessinée à haute voix, parce qu'il y en a qui disent « Ah oui, on ne sait pas qui parle, etc. » Alors qu'il y en a qui adorent ça parce que c'est l'occasion d'un théâtre formidable où on va se mettre à faire des tons, à faire des intonations. Et ça, l'enfant, il est très sensible à pouvoir... C'est un petit théâtre, quand même, la bande dessinée.
Jérôme Blanchard.
Oui, ça m'évoque une anecdote de parents qui sont abonnés à Mes Premiers J'aime Lire, qui lisent à deux les BD. Donc effectivement, au CP, c'est aussi cette histoire de lire à voix haute. On peut commencer à lire à deux, et chacun incarne un personnage, et c'est une façon aussi de s'approprier en douceur la lecture individuelle, quoi.
Alors Caroline nous écrit « En tant que maîtresse, je constate que beaucoup de parents pensent que l'enfant va se lancer dans la lecture de petits romans dès qu'il aura appris à lire. Et jusqu'au CE2, les images sont encore très importantes. Les romans sont souvent décourageants. Vive les albums de jeunesse et les BD. Et c'est vrai que pour motiver, la lecture régulière et plaisante est importante. Tous les moyens sont bons et la BD fait partie donc de l'arsenal à disposition des professionnels et des parents pour développer ce goût de la lecture dès le plus jeune âge.
Bien sûr, bien sûr.
Ou plutôt, dès le plus jeune âge, à partir de quel âge on peut lire des BD d'ailleurs ?
Alors, il y a de plus en plus de BD accessibles aux moins de 6 ans. Peut-être qu'on citera des titres tout à l'heure, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est déployé, développé avec des BD avec texte ou sans texte, ou avec des textes très courts. Et voilà. Et d'ailleurs, Serge Tisseron, qui est psychanalyste et qui avait écrit un livre sur la psychanalyse de la bande dessinée il y a déjà quelques années, s'y trompait pas, même s'il parlait d'adolescents. Il disait, en fait, il y a quelque chose, même dans les sonorités, dans les exclamations qu'il y a dans la BD, qui sont vraiment très proches des sons qu'apprécient les jeunes enfants. Donc on peut commencer très tôt.
Et oui, nous accueillons Marianne. Bonjour Marianne. Ah, Céline, pardon, j'avais Marianne devant mon écran. Bonjour Céline.
Oui, bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous Céline ?
J'appelle d'Allemagne, de Fribourg.
Enchantée. Quelle est votre question, votre témoignage, Céline ?
Alors moi, j'avais un témoignage par rapport à mon fils Victor, qui est en sixième maintenant, et qui est assez sévèrement dyslexique. Et les seules choses qu'il lit, justement, ce sont les BD. Donc au départ, voilà, on l'a vraiment amené à la lecture avec toute une panoplie de livres différents, de romans et autres, de BD aussi. Et il ne voulait pas lire, il me dit toujours « Mais maman, j'aime pas lire. » Et bien souvent, le soir, dans son lit, en fait, en allant au lit, bah, il prend une BD et il la lit tout seul. Donc bien souvent, le soir, je vais lui dire « Bonne nuit. » Et il est au lit avec sa BD et il lit. Et pour moi, c'est une victoire de se dire « Voilà, mon fils sait lire. » Et il arrive à lire malgré sa dyslexie parce que justement, il y a des BD. Donc voilà, c'était vraiment mon témoignage par rapport à ça.
Et vous êtes heureuse qu'il lise des BD. Vous ne vous dites pas « Ah là là, il ne lit que des BD ou des mangas et pas des romans. »
Oula, alors absolument pas, parce que je sais que moi j'adore la littérature, mais je ne vais mettre aucune pression sur mon fils, parce que justement, c'est le plaisir qu'il a de lire qui est plus important pour moi que l'objet. Donc je ne veux pas, vraiment pas lui mettre de pression en disant « il faut que tu lises des BD, des romans ou autres ». C'est vraiment, écoute, tant que tu sais lire, tant que tu as du plaisir... Prends plaisir, c'est ça qui est important.
Marine Schmoll, sur le témoignage de Céline.
Oui, bah merci pour ce témoignage, Céline. Il est vraiment important et représentatif aussi. Et c'est vrai qu'il y a une fonction dont on n'a pas encore parlé là, en termes de plaisir, mais en fait, la bande dessinée et les livres en général, ce ne sont pas que des passe-temps, ce sont des passeurs de temps, c'est-à-dire qu'ils aident à grandir. Et donc là, votre fils, il vous montre ça, c'est qu'il commence à être autonome, à pouvoir... alors vous disiez, peu importe l'objet, mais cet objet est absolument magnifique, c'est un objet de culture, c'est un objet artistique, et on n'a absolument pas à le dénigrer, c'est formidable qu'il rentre dans l'autonomie de la lecture.
Gwenaëlle Boulet.
Mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire alors pourquoi quand même un certain nombre d'enfants préfèrent la BD au début. C'est vrai que il y a à la fois des facilités et des complexités liées à la BD. Les facilités, c'est que quelque part le locuteur, il est évident. Il y a des bulles qui sont attribuées à des personnages. Ça paraît pas, mais quand on commence à lire et qu'il faut qu'on se représente à chaque fois. Qui parle ? Je dois me faire l'image mentale de qui parle, etc. C'est une complexité. Là, dans la bande dessinée, le locuteur est clair, on sait qui parle. Il a des mimiques, le locuteur. Donc, mine de rien, dans la bande dessinée, on sait s'il va dire la chose en colère ou s'il est complexé. Ou ça. On a des indices de ton à mettre. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour les débuts.
Et il ne faut pas oublier, Gwenaëlle Boulet, que les enfants, la plupart des enfants, sont familiarisés, avant de lire de la BD, sont familiarisés avec les albums jeunesse. Exactement. Selon les époques, ça sera le Père Castor, Babar, Caroline, Martine, Max et les Maxi-Monstres, les Monsieur Madame, etc. etc.
Toute cette littérature jeunesse qui est absolument incroyable.
Et c'est donc cette familiarité avec les albums de jeunesse qui, après, c'est une porte vers la BD.
Ah bah exactement, ils ont appris
plaisir,
à décoder.
Voilà,
ils ont appris à décoder l'image, c'est-à-dire décoder les faciès des personnages, la peur qui se voit sur le visage.
Avec donc, ce plaisir qu'ils ont connu grâce aux albums
exactement.
Jeunesse.
Exactement. Non mais ça c'est sûr, ça prépare. Donc le locuteur, effectivement, le fait de pouvoir lire les intentions, et puis, c'est marrant, j'en parlais avec mon fils hier, qui pourtant a 12 ans, qui est bon lecteur, mais il me dit la BD, ce qui est génial, c'est que t'as pas, alors je le dis en gros, mais t'as pas à tartiner toutes les descriptions. Et c'est pour ça qu'on en verra aussi les limites, c'est-à-dire que c'est important aussi d'aller lire autre chose parfois, mais c'est bien, c'est-à-dire que c'est facilitateur parce qu'il y a aussi tout ce contexte-là autour qui est posé et qui permet quand même de passer un certain nombre de choses qui sont plus longues dans la littérature.
Jérôme Blanchard.
Oui, c'est vrai que la BD, on le voit comme de la lecture facile, c'est un aspect qui est réel, il y a quelque chose de difficile et d'autre que de la lecture. Déjà, il y a un travail à faire sur les textes eux-mêmes, ils sont courts, mais il faut qu'il y ait le niveau de vocabulaire, etc.
On va y
revenir. Voilà. Et il y a quelque chose aussi, la BD, c'est aussi un langage propre. Moi, il y a une... c'est dans le Temple du Soleil, il y a quelque chose qui l'illustre bien, c'est de Tintin, là. Les Dupont sont là, se demandent... c'est quoi le guano ? La case suivante, il y a du guano, une mouette qui leur tartine leur chapeau. Et le capitaine Haddock leur dit, c'est ça le guano. En fait, le texte tout seul est incompréhensible, l'image toute seule est incompréhensible. Et donc, c'est un autre langage qu'ils doivent apprendre aussi en lisant la BD.
Didier Pazamonique ?
C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on découvre des mots mis en situation. Et c'est pour ça que la BD est née aux États-Unis dans les journaux, parce que les immigrants allemands ou russes qui venaient de l'autre bout du monde apprenaient l'anglais grâce à ces BD et à comprendre comment les mots correspondait à une situation où il pouvait représenter parfois un vocabulaire très difficile. Et ça, c'est une des vertus de la BD.
Bonjour Marianne, bienvenue.
Bonjour Annie.
Bonjour, vous appelez de Paris, quel est votre témoignage Marianne?
Alors, mon témoignage, c'est le témoignage d'une fille de dessinateur de bande dessinée.
Ah.
Et mon papa, en fait, quand on était petit, nous disait, ne dites surtout pas à l'école que vous êtes que la profession de votre papa, donc il nous inventait une autre profession, parce que c'était très mal vu à l'époque. Hein. Bon, j'ai 60 ans, donc c'était quand même dans les années 70.
Comment s'appelait-il votre père?
Il s'appelait Gaudelette. Il faisait de la BD assez classique.
Dans Fulgacial.
Ah non, ça c'est mon frère.
Ah bah, d'accord.
C'est l'histoire de famille.
D'accord.
Et donc,
lorsque nous étions petits, en fait, on avait une bibliothèque de BD belge immense. Et moi, j'ai appris, en fait, avant de savoir lire, effectivement, à regarder ces BD, à imaginer les histoires et à avoir une envie terrible de savoir lire, en fait. Ce qui fait qu'à l'école, en fait, c'était vraiment formidable pour moi d'apprendre à lire et d'enfin pouvoir lire ces histoires telles qu'elles avaient été écrites. Et j'ai gardé, grâce à cette BD que j'ai lue quand même pendant toute mon enfance, pratiquement que de la BD jusqu'à la préadolescence, j'ai gardé un goût de la lecture, en fait, après, qui ne m'a jamais quitté. Et après, je suis passée au roman, au livre. À l'adolescence, ça a été un même plaisir. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, on glisse très bien de l'un vers l'autre. Qu'en plus, moi, j'ai gardé quand même aussi des facilités d'écriture. Voilà. Je pense que ça a aussi éduqué au niveau littéraire. Donc, ça n'a pas du tout eu d'impact négatif pour la suite.
Et on reviendra tout à l'heure sur la richesse lexicale ou de vocabulaire qu'on retrouve dans beaucoup de BD. Et notamment, on fera un coup de projecteur sur René Goscinny, sur le grand René Goscinny, le co-créateur d'Astérix, d'Is No Good ou de Lucky Luke. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Marianne. Eh bien, dites-nous quel rôle a joué, comme Marianne, quel rôle a joué la BD dans votre goût pour la lecture. Quels sont les héros de BD qui vous ont accompagné dans votre jeunesse? Vos enfants ou petits-enfants ont-ils développé une appétence pour les livres grâce à la BD? Ou au contraire, vous vous inquiétez qu'ils ne lisent que des BD ou des mangas? On se retrouve juste après avoir écouté Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Je sais, oui, mon anglais est aussi mauvais qu'en 2025. Une chanson sortie en 1981. 10h23 sur Inter.
I just can't get enough, just like rain. set me free, and I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to get enough.
Dépêche Mode interprété Just Can't Get Enough.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi. France Inter fête la BD.
Et ce matin, à l'occasion de la journée spéciale BD sur France Inter, comment la bande dessinée développe le goût de la lecture chez les enfants et les ados. Avec nous ce matin, la psychologue Marine Schmoll, les journalistes de chez Bayard Jeunesse, Gonaël Boulet et Jérôme Blanchard, et l'un des meilleurs spécialistes de la BD, Didier Passamonique. Et nous accueillons Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
13 ans, c'est ça?
Oui.
Bon, alors, est-ce que j'ai le droit de te tutoyer?
Ouais.
D'accord, bon. Imaginons que tu me dises non. Bon, je t'aurais vouvoyé. Bon, ton goût pour la BD, il date de quand, Gabriel?
Il date de quand je suis très très jeune.
Ouais, t'avais quel âge?
Moins de 6 ans, je sais.
Ouais. Et tu lisais quoi à l'époque, quand t'avais 4, 5, 6 ans?
Je lisais des BD dont maintenant j'ai du mal à me rappeler les titres, mais c'était genre beaucoup d'images, quasiment aucun mot, quoi.
D'accord.
Et t'entends.
Et est-ce que tu as lu après des BD, là t'as 13 ans, qu'est-ce que tu as lu comme BD? Et est-ce que la lecture de ces bandes dessinées a développé chez toi un goût pour les livres et pour la lecture?
J'adore lire, et je sais que oui, c'est les BD, parce qu'en même temps c'est un peu les premiers trucs que j'ai lus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs à lire, et surtout des trucs à voir, et donc ouais, c'est ça qui a développé mon goût pour la lecture.
Et qu'est-ce que t'aimes le plus là, en ce moment?
Là, rien que ce matin du soir. Bon, émission, j'ai lu un
schtroumpf. Un schtroumpf, très bien, très très bien. Bon, mais merci pour ton témoignage, Gabriel. Merci beaucoup. Tiens, mais les schtroumpfs, justement, Didier Passamonique, on parlait tout à l'heure de richesse lexicale, de vocabulaire, et les schtroumpfs créés par Peyot, c'est assez extraordinaire de ce point de vue-là.
Absolument, et je me souviens, parce que j'ai bossé 2 ans avec Peyot, l'auteur des Schtroumpfs, donc je connais bien. Je me souviens d'Elporte qui me disait, qui était un des scénaristes qui aidait Peyot à écrire ses histoires, que les éducateurs à l'époque disaient, mais c'est pas possible ce mot qui commence par 5 consonnes, comment prononcer cette chose-là, ça marchera jamais. Et en fait, justement, les Schtroumpfs, il y a un apprentissage du langage à travers les Schtroumpfs, parce qu'il faut décrypter en permanence le mot schtroumpf pour comprendre ce qu'il signifie.
Le remettre dans le contexte.
Absolument.
Le remplacer, en fait, il faut dans ta tête, mentalement, le remplacer par le bon verbe.
Et ça, c'est génial, parce que c'est aborder le langage par le jeu. Et du coup, les schtroumpfs, ça devenait... Le schtroumpf devenait un infralangage dont les parents captaient rien, et qui permettait de discuter entre gamins, sans que les parents comprennent quoi que ce soit. Et l'autre qualité des schtroumpfs, c'est la typographie. Vous remarquerez que les schtroumpfs, comme Tintin, sont en cursive, alors que plus tard, c'est en capitale. Et c'est parce que l'apprentissage se fait en cursive, alors qu'aux États-Unis, par exemple, l'apprentissage se fait avec des bâtons. Donc il y a là quelque chose de très intéressant.
Et Jérôme Blanchard.
Voilà, et d'autant plus sur les apprenants, les primo-apprenants, quoi, parce qu'ils apprennent à écrire d'une certaine manière, à reconnaître les lettres d'une certaine manière, et si la typographie n'est pas hyper fine, etc., on confond très facilement un R avec un N ou avec un V. Donc il y a un soin pour l'apprentissage, il y a aussi ce soin de la forme de la typographie qui est hyper essentiel.
Gonaël Boulet.
Oui, c'est des choix auxquels on est très attentifs, par exemple, que ce soit dans nos magazines ou dans nos livres. Pour les
Pomme
les
d'Api, petits. J'aime lire.
Oui, voilà. Et on fait attention à la typographie. Les magazines qu'on a créés dans les années 70 ont été faits avec des orthophonistes, travailler avec des orthophonistes pour trouver les bonnes typographies qui sont accessibles aux enfants. Et aujourd'hui, on est encore plus attentif aux dyslexies, etc. On essaye vraiment d'être très très sensible à ces questions-là, parce que ça peut être un frein. Un enfant à qui on dit, tiens, lis une bande dessinée, c'est facile, et qui va buter sur des typos, qu'est-ce qui se dit? bah, elle se dit, je suis pas bon, je sais pas bien lire, c'est de la difficulté. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les aider à être en confiance au maximum dans la lecture, et ça paraît pas, mais c'est hyper important.
Marine Schmoll.
Oui, je voulais juste revenir sur la question des Schtroumpfs, même si ça, c'est capital pour la question de la dyslexie, etc. Je pense qu'ils ont un ingrédient phare aussi, qui est la multiplicité des personnages, et des projections et des identifications possibles. Enfin, je crois que tous les enfants pouvaient s'y retrouver, et les adultes, peut-être. Et
non seulement il y a les différences, mais aussi, il y a aussi l'expression du fait qu'on est tous pareils.
Mais s'il n'y avait pas beaucoup de filles.
La Schtroumpfette.
Ça s'est arrangé quand même.
Merci
quelques...
bien la figure de la Schtroumpfette quand même.
Ça s'est arrangé ces dernières années quand même. Il y a le village des Schtroumpfettes.
Didier Pazamonic, en matière de richesse du vocabulaire, de lexique, dans la bande dessinée, il y en a un qui n'était pas un manche, c'est René Goscinny, le co-créateur d'Astérix, d'Obélix, de Lucky Luke et d'Isno Good. Là, j'ai relu pendant les vacances de Noël l'un des meilleurs albums d'Astérix, à mon sens, Astérix chez les Helvètes, et j'ai été mais vraiment ébloui par le style, le niveau de vocabulaire, les subtils jeux de mots.
Le génie de Goscinny, c'est la double lecture. C'est quelqu'un qui est capable de raconter à la fois quelque chose aux enfants et en même temps de faire des petits clins d'œil appuyés aux adultes qui vont lire à côté, avec des citations latines, avec des allusions au cinéma, par exemple dans Astérix et les Helvètes, on reconnaît une scène c'est pas Visconti, c'est
Fellini.
Donc il y a des petites allusions comme ça et qui en fait donne de la richesse à la lecture. C'est-à-dire, on peut reprendre, comme tu l'as fait, un album d'Astérix et redécouvrir des choses. Et ça c'est l'avantage de la BD aussi, ça se relit plus facilement qu'un roman.
Marine Schmoll.
Oui, et en tout cas, ça fait partie de la définition que j'ai donnée d'un bon livre dans mon livre. C'est vraiment cette question de la double, voire triple lecture. Et c'est ce qu'on retrouve dans les albums jeunesse aussi. C'est-à-dire que souvent, l'enfant s'y retrouve, l'enfant plus grand va relire avec une lecture différente. Et en tant qu'adulte, on a encore une autre lecture.
On a parlé des Schtroumpfs, d'Astérix. Au cours du XXe siècle, la bande dessinée jeunesse va connaître donc un grand essor, avec également Spirou, Tintin, Lucky Luke. Cette BD franco-belge va contribuer à l'apprentissage et au goût de la lecture de millions d'enfants et d'adolescents.
Absolument, et c'était la bande dessinée des journaux, et il va y avoir un petit basculement dans les années 70-80, ça commence à partir de 1950, où on va passer des journaux aux albums, et cette rupture va provoquer aussi une fuite des talents. Des Franquin, par exemple, ou Gottlieb, qui vont quitter la bande dessinée jeunesse pour aller vers la bande dessinée pour adultes, parce que ça rapporte plus, tout simplement. Hein. Les journaux payaient moins que les albums. Et en même temps, il y a une presse éducative qui va naître chez Bayard, notamment grâce aux époux Beccaria, qui vont révolutionner un peu l'approche de la BD, de la presse à la BD.
Jérôme Blanchard, oui, de chez Bayard.
C'est précisément le moment où Tom Tom et Nana naissent dans J'aime lire, et c'est vrai que c'est une BD spécialement adaptée aux enfants, sur des épisodes qui font 8-10 pages, etc. Enfin, il y a vraiment tout un nouveau genre qui se crée à ce moment-là, mais...
Et Tom Tom et Nana, par exemple, est un très bon exemple. Je pense qu'on est une génération entière à être venue au petit roman de J'aime lire par la BD de Tom Tom et Nana. C'est-à-dire, tout le monde recevait, ceux qui recevaient leur J'aime lire chez eux, allaient s'enfermer aux toilettes pour d'abord lire leur BD de fin, et qui était, en fait, n'était pas le projet de départ du magazine. Au départ, c'était un petit roman, puis on s'est dit, pour les commissions paritaires, il faut mettre plus de choses, tiens, on va mettre de la BD.
C'est quoi les commissions paritaires ?
Alors, la commission paritaire, c'est le fait de pouvoir avoir un statut de presse, pour aller vite. Voilà. Et du coup, on s'est rendu compte qu'une génération entière est rentrée à la lecture par la bande dessinée.
Et nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, d'où appelez-vous Isabelle ?
J'appelle Damien.
Alors, quel est votre témoignage ce matin ?
Ben, en fait, ce que j'expliquais, c'est que j'ai 60 ans, mon père collectionnait les BD, donc mes sœurs et moi, nous avons toujours grandi avec les BD, au point qu'on appelait ça, on disait qu'on bédayait.
C'est pas mal.
Voilà.
Et est-ce que ça a contribué à votre goût de la lecture, cette lecture précoce des bandes dessinées, grâce à votre père ?
Ben, ça a contribué, oui, bien sûr, et puis ça ne m'empêchait pas de lire des livres à côté, par ailleurs. Et puis,
des vrais
plus,
livres
Non, non, il n'y a pas de vrais livres. Tiens, mais bonne lecture.
Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent encore que la bande dessinée, c'est un mauvais genre, et qui ne peut pas, ce genre, contribuer à l'enrichissement intellectuel des enfants et des adolescents? Qu'est-ce que vous en pensez de ce préjugé?
Je trouve que c'est une hérésie, parce que en plus du texte qui peut être très riche, on a également tout ce qui est iconographique, etc. Donc ça aide au développement même artistique. Donc non, je pense que c'est important, et puis l'un n'empêche pas l'autre.
Vous parlez de développement artistique, tiens, restez avec nous, Isabelle. Nous avons Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour. D'où appelez-vous, Jeanne?
Alors, moi, je suis parisienne.
Alors, vous, vos filles, que font-elles exactement?
Alors, bon, maintenant, elles sont dans des métiers artistiques, mais quand elles étaient petites, elles s'installaient autour de la table avec les livres, les BD, entre autres Marion Duval d'Yvan Pommeau. Et l'aînée, Julia, avait du calque, parce que bon, y avait des feuilles de calque à la maison, et elles inventaient toutes les trois une histoire, mais donc l'aînée, elle dessinait, elle recopiait sur le calque des petits personnages, et elle demandait à la deuxième, à Fanny, elle lui disait « Bon, alors cherche-moi quelqu'un qui court. » Et puis elle demandait à la troisième « Bon, moi j'ai besoin d'un arbre, cherche-moi un arbre. » Et toutes les trois, elles ont donc écrit, dessiné 3-4 pages de bande dessinée, et qu'elles ont ensuite, j'ai photocopié, et j'ai envoyé à Yvan Pommeau, qui, quelques temps plus tard, a renvoyé une jolie lettre. Elles étaient très fières.
Quelle belle histoire, quelle belle histoire.
Voilà. Et l'aînée est devenue illustratrice pour jeunesse.
La boucle est bouclée, Marine Schmoll. Voilà.
Oui, voilà. Bonjour. On voit vraiment comme c'est une histoire de transmission, la bande dessinée. On a vu avec plusieurs témoignages que s'il y en a à la maison, ça donne envie. Et il y a comme un dialogue intérieur, j'ai l'impression, des enfants avec les auteurs de BD. Et voilà. Et effectivement, ça ouvre une telle créativité que ce serait dommage de s'en passer.
Gonelle Boulet.
Bah moi, je vis dans une famille quand même avec un mari illustrateur, des enfants qui n'arrêtent pas de dessiner, donc je vois très très bien tout ça. En plus, ce qui est assez marrant quand ils se mettent à dessiner des BD, c'est, par exemple, j'ai un fils qui est très dans son univers intérieur à fond. Alors, il dessine des trucs, mais alors, sur le coup, nous, on ne comprend rien. C'est-à-dire que c'est incompréhensible, il a toute son histoire dans sa tête, tout lui semble très clair. Et là où ça commence à être intéressant, c'est de lui dire, bah écoute, on fait d'abord les compliments, hein, mais après on peut dire, bah écoute, j'ai pas tout compris à ton histoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de les faire sortir de leur monde intérieur pour se dire, qu'est-ce qui va devenir compréhensible pour les autres? C'est-à-dire que la BD n'est pas juste un art pour soi, mais toute l'écriture, c'est pareil, c'est quelque chose pour être compris. C'est pour, si on veut être drôle, bah, il faut faire rire l'autre, et pour ça, il faut donner les codes pour être drôle. Et donc, ça va les obliger à travailler la bande dessinée avec des adolescents, par exemple des préadolescents, c'est les obliger aussi à sortir de leur bulle pour se faire comprendre des autres, et donc donner les bons éléments graphiques ou textuels pour être compris.
Sortir
ça,
de leur bulle, je note.
C'est... Oh pardon.
Bien vu, Jérôme Blanchard.
Oui, c'est vrai qu'il y a une autre vertu, vous parliez de Marion Duval, une autre vertu de la BD, c'est la récurrence des héros. Quoi. C'est vrai que le livre peut être intimidant, c'est un des problèmes. Le magazine, les moins, parce qu'effectivement, c'est mélangé, etc. Le héros récurrent de la BD, c'est... Quelque part, on est rassuré, quoi. On va retrouver un copain de papier. Et donc, si on prend Gemler, par exemple, on ouvre, on va retrouver Anatole, on est content, etc.
Anatole Latuile.
Anatole Latuile, pardon. On est copains, donc je m'appelle par son prénom.
Je vis
avec lui tous les jours. Et puis après, on bascule sur le roman. Donc, il y a quelque chose aussi qui rend l'ouverture d'un livre moins intimidante.
Merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir appelé. Alors, la lecture d'une bande dessinée, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Ce n'est pas si facile que ça, Gonelle Boulet.
Ah ben non, c'est ce qu'on se disait, c'est vraiment des allers-retours texte-image.
Il faut d'abord interpréter les images.
Il faut savoir interpréter les images, c'est pour ça qu'on dit que les enfants qui ont été baignés depuis tout petit dans l'album jeunesse, c'est-à-dire qui ont appris à décrypter les images pendant qu'on leur lisait une histoire, à faire le lien, ce qu'on appelle le rapport texte-image, auquel par exemple nous on apporte énormément de soins. Pourquoi ? Parce que l'enfant, si on lui dit, je fais un truc grossier, mais que le personnage a peur et qu'il n'a pas du tout peur sur l'image, il est en confrontation, il ne comprend pas. Donc on va devoir apprendre à décrypter les images, ça c'est hyper important. Et puis effectivement, donc, ce sont ces sortes d'allers-retours. Moi par exemple, qui n'étais pas une lectrice de BD enfant, j'ai eu du mal J'étais pas une très bonne lectrice de BD adulte. C'est-à-dire, j'ai dû réapprendre à lire autrement, à savoir que moi, je ne lisais que les textes. Mmh. Je m'intéressais pas aux images.
Vous avez du mal à avec l'enchaînement des cases, à faire les liens logiques, les ellipses.
Je regardais pas les images, je lisais que les textes. Et donc, en fait, je pense qu'il me manquait toute une partie déjà de la beauté de cet art. Et donc, j'ai dû réapprendre à lire de la BD différemment. Donc, c'est vraiment une lecture en soi.
Et dans la complexité, il y a également le changement de cadrage et donc de point de vue.
La notion de point de vue, ça, c'est hyper difficile. Mettez un petit avec un angle vu du dessus et un angle vu de face, c'est très compliqué cognitivement.
Puis surtout, les images, c'est les émotions.
Non, bah, allez-y. C'est important.
Non, mais je veux dire, cet apprentissage de l'image, il est complètement fondamental parce que après, les enfants vont être plongés dans les dessins animés, dans les jeux vidéo. Le fait aussi dans la BD qu'on découvre des rôles. C'est pour ça que Gaston Lagaffe n'avait pas d'emploi, c'est parce qu'il n'avait pas de rôle. Et donc, le fait qu'on découvre des rôles et que plus tard, ils vont découvrir les jeux de rôle, tout ça, c'est très très important.
Ouais. Marine Schmoll.
Oui, je voulais dire que cette complexité, elle sert pour la lecture, mais elle sert dans la vie, a priori. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens actuellement. C'est-à-dire que ce sont deux systèmes autonomes. Lecture des images, lecture des textes, et en fait, ils font des allers-retours permanents entre ces deux systèmes. Et ça, on pense que ça va amener des compétences aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, dans la vie cognitive, etc., intellectuelle.
Et nous accueillons Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bienvenue.
Bonjour.
D'où appelez-vous Stéphanie ?
J'appelle d'une petite ville à côté d'Orléans, dans le Loiret.
Et vous êtes enseignante, c'est ça ?
Oui, je suis enseignante, directrice d'une école primaire, enseignante en CM2. Et j'étudie, donc moi avec mes élèves, j'étudie les albums sans texte, donc pour dédramatiser la lecture et le poids des textes dans les romans. Voilà, donc je travaille beaucoup l'imaginaire et je pars vraiment de l'image et après on va vers le texte.
Et donc comment ça se passe concrètement justement cet apprentissage via la BD ? Comment c'est pris d'ailleurs par les parents cette mise en avant de la bande dessinée ?
Alors moi j'ai toujours essayé justement de montrer aux parents, enfin de casser un peu l'image que la BD c'était pas de la lecture. J'ai trop vu d'élèves qui empruntaient à la BCD des romans mais qui ne les lisaient pas juste pour faire plaisir aux parents. Et c'est pour ça vraiment que j'ai tenu à faire rentrer la BD dans mes apprentissages. Et voilà. Et donc maintenant, c'est bien perçu par les parents parce que c'est accompagné et expliqué.
Gwenaëlle Boulet.
Alors moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est les albums... Vous voyez, en français, on dit des albums sans texte, comme si c'était quelque chose en moins. Moi, j'aime bien dire des albums toute image, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose en moins, c'est quelque chose en plus qui est proposé. Essayez, donc il y en a deux, par exemple, il y a Petit Poilu qui est très bien,
expliquez,
qui est très sympa.
Petit Poilu de Céline Frépon et Pierre Bailly chez Dupuis.
Oui, c'est un petit bonhomme, tout poilu, tout mignon, qui est très attachant. Tous les matins, il y a deux parenthèses, ça commence par tout le matin, il doit aller à l'école, et puis les soirs, il va rentrer. Donc c'est les deux parenthèses qui sont constantes, et au milieu de ça, vont se passer plein d'aventures.
Ça, c'est Petit Poilu. Il y a aussi Polo de Régis Faller.
Polo qui est très, très onirique. Voilà, qui paraît tous les mois dans le magazine Belles Histoires et qui est sous forme d'album aussi. Là, c'est un petit être, un petit chien, on va dire. Alors, c'est très onirique, très poétique. Son bateau peut aller aussi bien dans les nuages que le long de plantes magiques. Essayez, en tant qu'adulte, de le prendre et de raconter une histoire, vous allez voir comment c'est difficile. Et là où c'est fantastique, c'est que ce sont vraiment des supports à vocabulaire. Ouais. Là où, quelque part, une fois que vous avez mis les bulles, on va se tenir aux bulles, donc c'est une autre lecture, l'album Toute Image force vraiment l'enfant à devoir mettre du vocabulaire sur les choses. Par exemple, à travailler ses mots de liaison. Donc au début, ils vont dire « et puis après, et puis après, et puis après ». Ben, ça, on va le travailler, de ne pas toujours dire « et puis après », et puis de remplacer par d'autres mots de liaison, de cause à effet. C'est un terrain pour faire naître le vocabulaire qui est assez extraordinaire.
À partir de quel âge ? C'est BD sans texte, entre
3
guillemets.
Ans.
Donc c'est Petit Poilu et Polo, que vous aimez beaucoup également, Marie Schmoll.
Oui, moi j'ai adoré regarder, en tout cas les images et lire un petit peu, enfin inventer des histoires avec mon fils en l'occurrence. Et c'est vrai que j'allais dire justement que ça force l'enfant, mais ça force l'adulte à rester dans la créativité, dans le ludique, et surtout pas dans quelque chose du côté de la performance. Et ça, les enfants, ils s'y trompent pas. Ils viennent chercher l'adulte là-dessus.
Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir appelé. Tiens, Marine Schmoll, une autre BD sans texte ou BD toute image dès 4 ans, c'est Mon cœur, publié chez Nathan BD. C'est Antoine Guillopé, c'est ça ?
Oui, alors c'est toute une collection dont je crois on a parlé aussi un peu tout à l'heure qui permet d'aller voilà, explorer plein de personnages différents avec des un scénario assez court, des dessins très doux. Vraiment, on va rentrer en douceur dans la question de la bande dessinée.
Là. Rappelez le titre.
Alors là, c'est
Mon cœur.
Mon cœur, tout à fait.
Merci, merci Stéphanie, mais je lui ai déjà dit merci. Il est temps maintenant d'écouter le deuxième CD, comment la BD développe le goût de la lecture chez les enfants et les ados. On se retrouve juste après avoir écouté Aya Nakamura et Shensi qui interprètent Dis-moi.
Ton avis, j'en fais mon goûteux. J'ai pas vibré dans cette aventure. Non. Quand je voulais, tu faisais de l'indiscours. Tu continues en vrai, t'as tout gâché. J'attends pas de toi ton autorisation. Qu'est-ce que tu racontes entre nous, je coupe le réseau. Garde la même énergie. S'il te plaît, oui, cette énergie. Mon mec ou mon ennemi. D'après tes actes, mon ennemi. Je me rappelle quand tu bombais avec moi. Je le constate, je dormais avec le diable. Tu te rends compte que maintenant j'ai trop d'aura. Je n'ai pas la laine dans ma bouche. Oh, dis-moi. Dis-moi.
I don't feel like you know how to. Love again, but I don't doubt you. I stick around just for you. No matter what you say, I'll do. Look at all the things I do. I give you loyalty and that's my truth. But it's never enough for you. Now baby, who hurt you? Who hurt you? Don't forget that I've been hurt too. What's the reason why you can't keep love? Got you believing everything sees up. Who hurt you? Hurt you? Baby, I never desert you. Don't feel it right, not a one time thing. Easy with time, but it's so hard.
Don't feel it right, don't feel it right.
Aya Nakamura et Shensi interprétés Dis-moi.
Grand bien vous fasse.
J'aimerais bien que tu la mettes un petit peu en veilleuse pendant que je m'adonne à la lecture.
C'est une BD pour môme.
Si c'est un livre pour enfants, comme tu le prétends, ça veut dire pour toi que c'est trop tard.
Tu veux dire que je suis moins intelligent qu'un gosse de 4 ans ?
Ali Rebéi, sur France Inter.
Et ce matin, à l'occasion de la journée spéciale BD sur France Inter, comment la bande dessinée développe le goût de la lecture chez les enfants et les ados. Didier Pazamonique, vous êtes le président d'Actua BD. Il y a un genre qui souffre encore d'être un sous-genre, même s'il bénéficie actuellement d'une très belle expo au musée Guimet à Paris. C'est donc le manga, ça s'appelle le manga Tout un art, vous en êtes le commissaire.
Le co-commissaire, avec Estelle Boer.
Le co-commissaire et le manga encore considéré comme un objet commercial de masse, pour beaucoup, plus qu'un noblard, alors que les mangakas, les créateurs de mangas, font preuve de talent et de créativité, et on le voit bien dans votre expo.
Voilà, de toute façon, il n'y a pas de succès sans talent. Moi, c'est vraiment la base. Si on n'est pas capable de s'adresser au public avec du talent, les Astérix ou les Schtroumpfs ou Dragon Ball, forcément il y a le talent. Donc après, pour moi, les mangas c'est une bande dessinée. C'est donc c'est juste une bande dessinée qui vient du Japon. Si ça nous parle, c'est parce que ça réussit à nous parler, à parler à nos jeunes lecteurs.
Oui, parce que parmi les loisirs préférés des adolescentes et des adolescents, il y a la lecture des mangas, One Piece, Naruto, Fairy Tail, Demon Slayer, et ce sont des mangas qui contribuent au goût de la lecture des ados. Et c'est vrai que quand le pass culture a été lancé, j'ai entendu des critiques. Ah, mais avec ce pass culture, ils vont surtout acheter des BD. Ou des mangas plus que des romans. C'est vrai, mais on pourrait y rajouter, et alors ?
Mais c'était bienvenu, surtout. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment du Covid ? Les médiathèques ferment, les bibliothèques ferment, et c'est là qu'il y avait le plus d'empreintes mangas. Et puis, cette consommation s'est reportée sur les librairies, et ça a fait un boom absolument énorme. Et donc, ça tombait bien que le pass culture permette aux parents de moins dépenser pour les bandes dessinées des enfants, surtout qu'ils étaient à la maison, il faut s'en rappeler.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents, aux grands-parents qui ont peu peur quand ils voient leurs ados lire que des mangas ? Marine Schmoll, psychologue.
Oui, alors moi j'ai une hypothèse que je suis en train de tester, donc c'est bien qu'on en discute. C'est que les mangas, ils ont un peu remplacé les grands mythes. En fait, on a un peu édulcoré nos histoires de la littérature, et en fait, les enfants et les adolescents et les préadolescents ont besoin qu'on leur parle avec un peu plus de vérité, de véracité, voire un peu plus de violence, parfois, ou de pulsionnalité. Et dans les mangas, je crois qu'ils ont trouvé des récits qui sont à la hauteur des besoins. En tout cas, de parler de tout ça.
C'est tellement vrai que dans notre expo au musée Guimet, on explique par exemple que Dragon Ball vient d'un roman chinois qui date du XVIe siècle. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'expo, il y a une vraie Dragon Ball, et pas n'importe laquelle. C'est le fait par l'avant-dernier shogun à Napoléon III. Donc on va découvrir que les Dragon Ball, ça existe vraiment dans la vraie vie. Et donc, non, mais bien sûr, et puis Senseiya, c'est évidemment, c'est toute la mythologie grecque qui est réinvestie. C'est pas nouveau, hein. Rappelons-nous que les Américains n'ont pas fait autre chose avec les super-héros, au fond. Je pense que l'apport des mangas, c'est que ils ont réussi à conquérir un terrain qui était la jeunesse, qui était un peu abandonné par les éditeurs classiques.
Dans quelle décennie ?
Dans les années 80. Ne fût-ce que en termes de prix. Astérix vient de passer la barre des 10 euros. Aujourd'hui, un manga, ça coûte 10 euros, un peu moins de 10 euros.
Puis dans un monde de transition où il y a quand même pas mal de violence autour d'eux, donc ils ont besoin qu'on en parle aussi de manière artistique.
Absolument.
Gonelle Boulay, rédactrice en chef de Pomme d'Api.
Puis, c'est une culture commune qu'ils se font. En fait, moi, je veux que ce soit les One Piece, etc. C'est leur culture commune. C'est-à-dire que comme on peut parler de séries, etc., ils vont parler de ça. Ça va être aussi un support à imagination, un support à discussion dans la cour de récré. Et effectivement, moi, je vois en particulier, alors les filles aussi beaucoup, hein, sur les garçons, là, ils ont leurs univers de manga qu'ils partagent tous, qu'ils dessinent.
Les filles aussi.
Les filles aussi ont tous leurs univers. Et c'est ça que j'ai plus à la maison, le garçon qui lit manga. Mais c'est vrai, non, c'est aussi une culture populaire commune qui vont se créer à travers tous ces héros fantastiques.
Et je vous signale qu'à 15h à la Maison de la Radio et de la Musique, Laetitia Gaillé animera une masterclass gratuite intitulée French Manga au Studio 104. Laetitia Gaillé qui proposera une immersion dans l'univers du manga français avec Bablé et Singelin, Renaud, Le Maire, Génie, Johan Vornière, le tout suivi d'une séance de dédicace avec tous ses auteurs. Et nous accueillons Virgile. Bonjour Virgile, bienvenue.
Bonjour à tous.
Alors vous avez quel âge, Virgile ? Parce que vous êtes un grand lecteur de BD depuis tout petit, c'est ça ?
C'est ça exactement, j'ai 23 ans aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous a apporté cette lecture très précoce de la bande dessinée sur le goût des livres ?
Moi j'ai commencé à lire très jeune des BD. Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien, Virgile.
Ça a été une découverte incroyable. En fait, j'ai appris plein de trucs via la BD et notamment le manga. Comme j'entendais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi c'est un livre à part entière, le manga, et ça apprend plein de choses sur les constructions amicales, tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans les mangas sur ces sujets-là. Et puis on m'a souvent poussé à lire des romans et je pense que je suis un peu dyslexique et j'ai toujours eu du mal en fait. J'ai toujours eu beaucoup de mal à lire des romans, et alors que les BD, il y avait une facilité. C'était beaucoup plus simple pour moi. Et en fait, la lecture de la bande dessinée, je la vois vraiment comme une lecture à part entière. Je la vois vraiment comme exactement la même lecture que les romans, en fait.
Alors, on me glisse dans le casque que vous allez devenir auteur, en tout cas, que vous avez envie de devenir auteur de manga ou de BD.
C'est ça, complètement. Là, je suis en train de j'ai commencé une BD, donc je suis à fond dedans en ce moment.
Merci beaucoup, Virgile, de nous avoir appelé. Alors, Virgile disait qu'on apprenait plein de choses dans les BD. Gwenaëlle Boulay, c'est un outil de culture absolument incroyable. Et je prends l'exemple de votre propre bande dessinée, Gwenaëlle Boulay. Ça s'appelle Les Grandes Vacances. C'est publié chez Bayard Jeunesse. Les Grandes Grandes Vacances, publié chez Bayard Jeunesse, qui est devenu, entre guillemets, un classique pour enseigner la Seconde Guerre mondiale aux classes de CM2.
Oui, alors c'est un objet en plus un peu particulier, celui-là, parce qu'il est issu d'une série animée qui est effectivement assez fantastique sur la Seconde Guerre mondiale, qui permet à hauteur d'enfant de traverser toutes les années de guerre, parce que ce sont deux enfants, Ernest et Colette, qui vont être envoyés chez leurs grands-parents en Normandie, et donc on va vivre l'exode, etc. C'est très documenté. Donc il y a aussi les enfants de la Résistance, comme grand classique sur la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'on a aussi tout un corpus comme ça de bandes dessinées qui nous emmènent dans l'imaginaire, soit effectivement nous permettent tout bêtement de connaître des choses scientifiques, des choses historiques, de la philosophie. On a aussi des séries, par exemple, pour tout petit, les petits philosophes qui permettent de faire de la philo. Donc en fait, la bande dessinée, quelque part, à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est un support, mais qui permet d'aborder tous les champs possibles, quoi. Donc nous, on a des séries histoire de la science, etc. Et effectivement, les grandes grandes vacances, là, j'étais en salon encore avec plein d'enseignants de CM2, puisque c'est le programme de CM2, qui viennent me voir en disant, mais nous, on s'appuie dessus avec les enfants pour pouvoir, parce qu'il y a de l'émotion qui se vit. Et donc, quand on parle de la collaboration, des résistants, etc., ils savent de quoi ça parle.
Tiens, une BD que vous avez envie de conseiller, il nous reste une poignée de secondes. Jérôme Blanchard, une.
Oui, moi, ce serait Émile et Margot, parce que c'est une BD vraiment pour le CP, pour les enfants qui commencent à apprendre à lire. Donc, elle a été vraiment conçue comme ça, pour eux, avec des orthophonistes, etc. C'est un pas entre le conte de fées et puis des délires complètement fous pour les plus grands, quoi.
Émile et Margot, chez Bayard Jeunesse. Didier Pazamonique, une BD que vous avez envie de conseiller. Didier Pazamonique.
Alors, il y a un éditeur que j'aime beaucoup, qui est le Renard Doré, qui est en fait une filiale de l'École des Loisirs, et donc ça se ressent un peu dans ce qu'ils produisent. Et il y a une BD qui est sortie, qui est un manga, qui s'appelle Petit Requin, qui est à lire dans le sens des mangas, c'est-à-dire pas forcément dans le même sens, et là ça permet déjà d'expliquer que les BD japonaises, c'est pas les BD françaises. Et puis c'est très charmant, ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Petit Requin, qui est presque silencieux, il n'y a pas beaucoup de bulles, il y a beaucoup de gestes, d'émotions. Il voyage dans la ville imaginaire de 8 poissons, il va dans la bibliothèque, le parc, le cinéma, le bowling, au centre commercial. C'est des rencontres, et au fond c'est ça, si on doit résumer le manga, les mangas sont souvent des romans d'apprentissage.
Petit Requin de
Penguin Box, et c'est aux éditions Le Renard Doré.
Et vous avez juste 10 secondes.
Allez. Moi, j'y vais pour Anna.
Allez-y.
Anna. Moi, je la trouve formidable. C'est une héroïne moderne, quand même. Enfin, un peu plus moderne que.
Anna, A-N-A.
Voilà.
Anna.
Et c'est signé par Alexis Dormal.
Oui, tout à fait.
Chez Dargaud.
Merci beaucoup, Marine Schmoll. Votre guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants est publié chez Duno. Merci, Jérôme Blanchard. J'aime lire et je bouquine, c'est bien sûr en kiosque et par abonnement. Merci Gwenaëlle Boulay. Poppy et Pomme d'Api, c'est également en kiosque et par abonnement. Et votre recueil d'hilarantes chroniques de Grand Bien Vous Fasse sous forme de BD, Ma Vie de Parents, c'est publié chez Bayard et France Inter, une émission à podcaster sur l'appli Radio France. Et la journée spéciale BD continue toute la journée sur France Inter. Bonjour mon cher Nagui.
Bonjour mon cher Ali.
C'était quoi le personnage de BD que vous adoriez quand vous étiez enfant?
Astérix. Dingue. Après, je suis tombé dans les dingos dossiers de Gottlieb.
Ah ça.
Culte Marcel Gottlieb. Culte également notre invité aujourd'hui, puisque nous recevons Florence Sestac.
Ah, c'est culte, c'est vraiment culte. Bonne émission, mon cher Nagui.
Merci.